Monsieur Antoine Larjakovski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au Collège des Bernardins. Vous avez fondé l'Institut économique de l'Université de Lviv en Ukraine. Et nous allons parler avec vous aujourd'hui de la question ukrainienne qui paraît extrêmement complexe. À vue d'Internet et surtout à vue de Suisse, on a l'impression qu'on rejoue là un épisode un petit peu successif à la question de la Libye, voire de la Syrie. C'est peut-être même une forme de réponse du berger à la bergère en direction de la Russie par rapport à toutes les questions syriennes. D'un côté, on a l'impression que l'Ukraine est divisée entre un attachement traditionnel pour la Russie et d'un autre côté, une envie d'ouverture vers l'Europe. Qu'en est-il vraiment?
Alors, c'est évident que l'Ukraine fait partie du monde slave, mais c'est évident aussi que l'Ukraine fait partie du monde européen. L'Ukraine a reçu son baptême des Grecs, des Byzantins. L'Ukraine a très tôt reçu des colonies grecques en Crimée, notamment. L'Ukraine a une architecture où on trouve à la fois des églises byzantines, mais aussi du gothique et du baroque. Les écrivains ukrainiens, que ce soit Gogol qui est russophone ou Ivan Franko qui est ukrainophone, ce sont des grandes figures qu'on peut ranger aux côtés des grands écrivains européens comme Victor Hugo ou Shakespeare. Il y a vraiment une appartenance de l'Ukraine à l'espace européen, à l'espace politique aussi. Les grandes familles princières ukrainiennes ont été mariées aux familles du Saint-Empire romain germanique ou bien des rois capétiens. Donc l'Ukraine est un pays européen et depuis 2000 ans. Donc voilà, les Ukrainiens insistent sur ce point depuis leur indépendance. Ils regardent vers l'Europe parce que ce qui est important pour eux, ce sont les valeurs européennes de réconciliation, de justice, de droits de l'homme. Alors ils le font en comprenant bien que voilà, ils ont du travail à faire sur le plan de leur réforme intérieure, mais ils sont déterminés pour aller dans cette direction. Et quand en 2013, donc le 22 novembre 2013, le gouvernement de Monsieur Yanukovych, à savoir le Premier ministre Monsieur Azarov, a dit que finalement il changeait d'avis et qu'il voulait plus signer ce traité d'association avec l'Union européenne, là, ça a provoqué une immense révolte, parce que ça faisait déjà depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis l'élection du président Yanukovych, que le gouvernement ukrainien passait son temps à répéter à la population ukrainienne que c'était très bien, qu'il fallait absolument signer cet accord, qu'on s'y préparait déjà. Et donc les Ukrainiens avaient beau être pas très contents de leur gouvernement, je dirais un petit peu comme partout, ils avaient cette perspective qu'en intégrant étape par étape l'espace politique européen, ils arriveraient à retrouver leur souveraineté et ces normes européennes qui sont dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et le fait qu'il y ait eu cette volte-face, alors là, ça a été la panique. Le gouvernement n'a pas su réagir et de fil en aiguille, la confrontation et jusqu'au drame et à la tragédie d'hier.
Alors, d'un point de vue strictement helvétique, évidemment, on a du mal à considérer l'Union européenne comme étant un espace de stricte liberté. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu un point de vue orienté. Mais on a cette impression que l'Ukraine est dans une impasse et que soit elle retombe dans l'ère un petit peu russe, soit elle bascule dans celle de l'Union européenne qui ne paraît pas plus libre d'un certain point de vue.
Je voudrais revenir sur ce que vous dites au sujet de l'espace européen. Je peux comprendre que, vu de Suisse, il puisse y avoir une sorte de distance par rapport à la vie politique européenne, parce que la Suisse, depuis plusieurs siècles, a mis en place une démocratie efficace avec un principe de subsidiarité qui fonctionne. Mais il faut que vous arriviez à vous transporter dans l'espace-temps post-soviétique, avec un pays qui n'a rien changé à la structure d'un État qui est toujours soviétique. C'est-à-dire que il y a une corruption énorme, il y a des juges qui sont absolument pas indépendants, il y a des policiers qui peuvent vous arrêter et vous mettre en prison du jour au lendemain, ou bien vous soutirer de l'argent. C'est un espace d'une violence terrible. C'est l'un des pays d'après toutes les organisations internationales où il y a le plus de violence dans le monde, hein, c'est comparable au Nigeria ou à l'Afrique du Sud. Donc voilà, peut-être que vu de Suisse, l'Europe paraît un endroit pas toujours très, très démocratique, mais vu d'Ukraine, l'Europe c'est un pays de cocagne.
Alors, est-ce que justement l'Ukraine n'est pas au milieu d'un jeu de guerre? On voit finalement qu'il y a eu des phénomènes à peu près similaires, du moins en termes strictement insurrectionnels, sur tout le pourtour de la Méditerranée, puis la Syrie, la Libye évidemment, la France a eu une part à jouer là-dedans, et puis on retrouve en Ukraine les mêmes acteurs, c'est-à-dire Bernard-Henri Lévy, John McCain, maintenant le ministre Fabius, ce sont les mêmes qui ont essayé de, disons, de pousser les islamistes au pouvoir en Syrie. On les retrouve sur les estrades de la place Maïdan. Est-ce que c'est pas un signal extrêmement inquiétant? Est-ce que le peuple ukrainien, celui qui s'insurge, n'est pas en train de se faire avoir quelque part?
Écoutez, là, je crois que vous êtes un peu victime des médias, en fait, parce que
C'est possible.
les acteurs qui font bouger cette révolution qui dure depuis 3 mois, c'est une nation entière qui se soulève et qui fait que tous les dimanches depuis 3 mois, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui défilent dans les plus grandes villes d'Ukraine. Et les acteurs, c'est pas du tout BHL, c'est pas du tout McCain, c'est Arsène Yatsenyuk, Vitali Klitschko et Oleg Tiagnibok. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur ces trois figures parce que il se trouve que j'ai pu les fréquenter, enfin surtout Arsène Yatsenyuk, c'est des gens d'une nouvelle génération. Arsène Yatsenyuk, il est né en 1974, il a à peine 40 ans, il a déjà été président du Parlement ukrainien, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie, c'est quelqu'un qui a un doctorat en droit, qui parle parfaitement l'anglais, c'est quelqu'un qui fait partie d'une nouvelle génération politique et intellectuelle et qui a surtout un courage extraordinaire parce que ça lui est arrivé à plusieurs reprises sur Maïdan d'être menacé et de dire moi je n'ai pas peur, si je recevrais un jour une balle dans le front, eh ben je recevrai une balle dans le front. Moi, ce qui compte, c'est l'avenir de mes enfants et l'avenir de la liberté. Donc, je veux dire, c'est ça qu'il faut retenir. Alors que par ailleurs, il y ait des gens qui viennent d'Europe occidentale ou des États-Unis pour soutenir cette démocratie, moi, à titre personnel, je suis pas très regardant. Je suis plutôt content, même si j'étais pas forcément en accord avec Bernard-Henri Lévy sur ses autres prises de position. Sur la position ukrainienne, je suis parfaitement d'accord avec lui, et je regrette qu'il n'y ait pas eu un seul ministre français qui soit parti sur Maïdan pour soutenir cette principale manifestation pro-européenne. Il n'y a jamais eu autant de personnes en Europe qui aient été prêtes à risquer leur vie pour appartenir à un ensemble démocratique commun.
Alors on a vu ces images très impressionnantes de pop orthodoxe en croix de procession et en ornement au milieu de la place entre les deux camps. Quelle est la position des églises finalement actuellement au milieu de ce conflit?
Ben, la position des églises, là aussi, je crois que c'est important de profiter de cet événement pour essayer de tendre le bras à certaines idées reçues qu'on a en Occident. La propagande du Kremlin a dit depuis 50 ans que l'Ukraine était divisée, l'Ukraine d'abord n'était pas un État, que les églises étaient divisées, que l'Ukraine occidentale s'était peuplée de nationalistes et que les pires des nationalistes sont justement les prêtres gréco-catholiques, c'est-à-dire catholiques de rite byzantin. Il se trouve que Vladimir Poutine, lorsqu'il est allé à Bruxelles, juste après la démission du gouvernement Azarov, a dit que les vrais responsables, c'était les prêtres gréco-catholiques racistes et antisémites. Ce qui est, mais alors, une folie pure, parce que moi j'ai pu travailler avec les gréco-catholiques, j'ai donc créé cet institut d'études œcuméniques à Lviv, et j'ai pas rencontré une église plus œcuménique que celle précisément qui est attaquée aujourd'hui par le Kremlin. L'église grecque catholique, c'est une église orthodoxe qui a accepté le concile de Florence et qui, justement, elle a accepté ce concile de Florence en 1439 avec cette idée qu'elle avait comme mission d'unir l'Orient byzantin et grec, avec l'Occident latin et l'Occident de la Réforme. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Et donc, ils ont réussi assez tôt, au mois de décembre, à réconcilier toutes les églises autour d'une proposition qui a été faite au gouvernement de M. Yanukovych. Et ce texte, donc, qui a été signé par toutes les églises, c'est un texte qui disait qu'il fallait écouter ce que disent les manifestants et pas leur taper dessus, qu'il fallait négocier et qu'il fallait préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc ça, c'est très important de bien comprendre qu'il y a une véritable unité des églises pour soutenir les manifestants, alors que généralement on explique que non, les chrétiens sont absolument pas unis en Ukraine. Et là encore, depuis la tuerie qui a eu lieu hier et avant-hier, l'ensemble des églises ont dit que les responsables étaient vraiment ceux qui avaient le pouvoir, et donc Monsieur Yanukovych. Donc, alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que on peut pas mettre au même niveau les protestants, les catholiques, les orthodoxes, que parmi les orthodoxes, il y a deux grandes églises qui sont divergentes, que parmi les catholiques, il y a aussi, outre l'église grecque catholique, l'église catholique romaine. Ensuite, quand on cherche à en savoir un peu plus, eh bien, on comprend que le paysage est contrasté, mais je dirais comme un peu dans tous les grands pays européens aujourd'hui. Mais le fait à retenir, c'est cette déclaration qui a été signée par toutes les églises et qui dit au gouvernement, il faut que maintenant vous non seulement vous défendiez la société civile, mais que vous préserviez l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et ça, c'était une position vraiment politique, puisque on sait très bien que le président Poutine, lui, cherche à diviser l'Ukraine.
Voilà, vous mentionniez l'antisémitisme, le nationalisme, c'est une accusation que l'on entend souvent à l'adresse de Lech Tianibok, du parti Svoboda. Qu'en est-il finalement? Est-ce que ce sont des néo-nazis, comme on dit?
Pas du tout, justement, là, comment dire, moi je le connais, donc je peux en témoigner, mais personne n'est obligé de croire ce que je dis. Il y a des faits très très simples, et le premier fait, c'est que Oleg Tianibok a été élu démocratiquement aux élections municipales de 2010 à Lviv, et qu'il a été ensuite élu député de façon tout aussi démocratique en octobre 2012 lors des élections législatives. Et il a joué le jeu parlementaire depuis ce temps-là. Donc je vois pas en quoi on pourrait le comparer à Hitler ou à Staline, quand on sait le rejet total de la vie démocratique que les nazis ont mis en place à partir de 1930, 31, 32. Donc, et ce qu'on peut dire également, c'est que peut-être que certains de ces discours sont assez musclés et qu'ils n'hésitent pas à se réclamer de l'armée de libération nationale ukrainienne, mais cette armée de libération nationale ukrainienne, je rappelle quand même que c'est cette armée qui a pu à la fois lutter contre les envahisseurs communistes et les envahisseurs nazis. Donc non, c'est au contraire du côté du Kremlin et du côté du gouvernement en place que j'aurais tendance à voir les vraies méthodes totalitaires. Lorsqu'un peuple se fait tirer dessus alors qu'il manifeste pacifiquement, moi j'appelle ça au contraire le signe d'un État qui est devenu totalitaire.
Enfin oui, pacifiquement, on voit quand même des images de cocktails Molotov, de policiers en feu, de policiers assommés, de policiers faits prisonniers. Est-ce que c'est une réaction légitime selon vous? C'est venu après les premières attaques des agents de police?
Ah mais c'est ce que, absolument, il y a eu hier plus de 75 morts et on a tiré, on voit des images de snipers qui tirent sur les manifestants. Alors les manifestants, ils manifestaient pacifiquement et on n'a absolument pas le droit de déplacer des manifestants. La Constitution permet la liberté de manifester et c'est justement ça qu'a voulu changer Yanukovych le 16 janvier en imposant des lois liberticides. Mais les Ukrainiens ont défendu leurs droits et je ne comprends pas qu'un journaliste suisse pro-démocratique me pose des questions de ce type, parce que s'il y a un endroit aujourd'hui où on a défendu la démocratie en Europe, c'est bien ces manifestants qui ont été prêts à risquer leur vie pour défendre la place Maïdan.
Alors maintenant, on est arrivé à une forme d'accord. Il y aura des élections anticipées. Vous pensez que ça va régler le problème, d'une part, et puis ensuite que le parti des manifestants va l'emporter?
Bah écoutez, moi j'ai pas lu encore les accords, ils n'ont pas été publiés. Ce que je sais, c'est que il est impératif que il y ait un respect de la souveraineté de l'Ukraine. Ça n'est pas ni à la Pologne, ni à la France et ni à la Russie de dicter les lois à venir de l'Ukraine. L'Ukraine est un État souverain et c'est ça qu'il faut respecter. Yanukovych a perdu tout crédit depuis qu'il a tiré sur la foule. Il l'avait perdu déjà depuis très longtemps, mais là, c'est juste de façon très claire pour toute la population, quelqu'un de dangereux et qu'il faut impérativement écarter du pouvoir et au plus vite. Ensuite, voilà, l'avenir dira si les Ukrainiens seront en mesure de pouvoir mettre à distance le Kremlin, parce que on voit bien que le Kremlin a envoyé des troupes sur le territoire ukrainien, ce qu'a reconnu le ministre de l'Intérieur, Monsieur Zakharchenko, il y a quelques jours, en disant qu'il n'arrivait plus à contrôler ses hommes. Et que c'était précisément en raison du fait de snipers russes qui étaient infiltrés parmi les Berkouta. Donc il y a évidemment du côté de la Russie une volonté de déstabiliser la situation, mais moi personnellement, je vois la maturité de cette jeune génération d'opposants démocratiques que sont Yatsenyuk, Klitschko et Tsagnibok, qui ont réussi, en manifestant pacifiquement depuis 3 mois, à changer la situation, à s'opposer à Poutine. Et donc, je crois beaucoup en leur sagesse pour continuer à faire avancer le changement, pour rétablir la démocratie, le jeu parlementaire. Il y a des propositions qui existent, qui ont été proposées par les intellectuels et par les églises dans cette initiative du 1er décembre. Donc, c'est un texte qui circule et qui, à mon avis, est très important. Il faut bien entendu que les puissances dans le monde qui sont en faveur de la démocratie et de la paix soutiennent l'Ukraine. Et je me suis réjoui qu'à Munich, les Européens aient promis le soutien du FMI et de la Banque mondiale pour accompagner ce renouveau mené par Arsène Yatsenyuk, parce que l'Ukraine est dans une situation économique terrible. Et ils vont devoir gérer vraiment le fait que les caisses ont été vidées par tous ces oligarques et ces bandits de grand chemin.
Antoine Arjakovski, on vous remercie d'avoir répondu aux questions des observateurs.
Merci.